Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Au sommaire du bien commun ce matin, la chronique de Sébastien Miller, que vous retrouverez en fin d'émission, comme chaque mardi. Le dossier sera, quant à lui, consacré à la justice en Iran. Mais avant, l'agenda d'Harold Épineuse. Bonjour Harold.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Dans l'agenda cette semaine, des nouvelles du monde en continu sur notre site www.agendadubiencommun.fr et deux événements. Trois tables rondes d'abord sur l'enseignement du droit et un colloque d'une journée sur les secteurs stratégiques. Et dans une semaine, jour pour jour, aura lieu à Paris un colloque consacré à l'enseignement du droit. Il s'agit plus précisément de trois tables rondes à l'initiative du Cercle Georges Dupuis. En hommage à Georges Dupuis, grand professeur aujourd'hui décédé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il sera fait en une après-midi avec une quinzaine d'intervenants. D'abord, un bilan de l'enseignement du droit en France, puis une revue des enjeux. Ensuite, à l'heure d'une compétition que se livrent les facultés de droit, Sciences Po, les écoles de commerce pour la formation des juristes et des non-juristes au droit. Et un regard enfin dans ces tables rondes sur les métiers du droit, magistrature, barreau, notariat, en ligne de mire des étudiants qui, toujours plus nombreux, entament des études juridiques. Certains ravis, certains déçus de l'enseignement du droit qui leur est proposé pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Car comme aimait à le dire le doyen de Fontette, ayant guidé mes premiers pas sur les bancs de la faculté il y a de ça quelques années, les études de droit mènent à tout, encore faut-il savoir en sortir. Un moment d'introspection donc dans ces tables rondes, un moment bienvenu en tous les cas pour un enseignement du droit en France qui, bien entendu, est aussi en concurrence avec un enseignement du droit ailleurs en Europe. Et dans deux jours, le Centre européen de droit et d'économie, le CEDE de l'ESSEC, organise une journée de colloque à Paris intitulée « État et entreprises dans la mondialisation, opportunités et menaces pour les secteurs stratégiques ». Un colloque qui réunira juristes et économistes, comme tous les travaux du CEDE. Nous avons ce matin avec nous au téléphone Viviane de Beaufort, qui est professeure de droit à l'ESSEC et co-directrice de CEDE. Bonjour Viviane de Beaufort.
Bonjour.
Pourquoi cette idée de colloque ?
Eh bien, le CEDE, vous l'avez dit, est un centre de recherche transversal économie-droit. Nous cherchons à promouvoir la norme comme instrument de compétitivité et nous menons depuis plus d'un an maintenant des travaux sur une problématique de fond dont l'actualité ces dernières semaines est criante avec l'affaire Renault. La question de la mondialisation, l'effet de compétitivité induit pour des entreprises qui sont certes françaises ou allemandes ou britanniques, mais avant tout mondiale, et qui envisagent délocalisation d'activités productives, voire de leur centre de décision, pour des raisons de compétitivité bien comprises. Face à ça, souci légitime des États, pour Renault de l'État français qui tente d'empêcher un tel transfert d'activité, et on entend parler ces jours-ci d'une augmentation de capital de l'État au sein de Renault. Je ne vais pas reparler de renationalisation, mais on n'en est pas loin. Troisième acteur, l'Union européenne, avec la Commission qui rappelle à l'ordre la France en expliquant que nous avons des obligations liées à la construction du marché intérieur et qu'il n'est pas question d'empêcher les activités libres de telles entreprises. C'est sur ces thèmes que porte notre colloque annuel du 28 janvier, avec un an de travaux d'universitaires mais aussi de praticiens, un colloque soutenu par Anne-Marie Hydrac, avec Laurent Cohen-Tanucci comme grand témoin, des hauts fonctionnaires de l'État, mais aussi de l'Union européenne et des think tanks. Nous souhaitons interpeller sur le rôle de l'Europe dans la construction d'une politique industrielle européenne, sur l'articulation des politiques nationales et sur un volet offensif à mettre en place en urgence vis-à-vis de l'extérieur, à l'OMC, dans le cadre des accords bilatéraux, autour du principe de réciprocité.
Eh bien, merci Viviane de Beaufort, voilà qui nous donne une idée précise du contenu des débats qui auront lieu lors de votre colloque donc de jeudi prochain à Paris, dont je rappelle le titre « État et entreprises dans la mondialisation, opportunités et menaces pour les secteurs stratégiques », un colloque du CEDE. Et n'oubliez pas bien sûr de suivre notre veille d'informations en continu. Je vous laisse avec vos invités maintenant, Antoine.
Merci Harold Épineuse. « l'Iran. L'Iran se retrouve souvent au centre de l'actualité. On songe bien sûr à la question du nucléaire, on songe aux troubles sociaux ou au sort de la jeune Clotilde Reyes. On entrevoit quelques images fugitives des cours et tribunaux, mais que sait-on au juste de la société iranienne? Que sait-on au juste de la justice en Iran? C'est à une visite de cette société, de cette justice, que le bien commun vous invite ce matin en compagnie de ses deux invités. Azadeh Kian, qui est professeur de sociologie à l'Université de Paris 7 et qui dirige le CEDREF, le Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes, et à qui l'on doit plusieurs ouvrages, et notamment « Les femmes iraniennes entre islam, état et famille », publié aux éditions Maisonneuve et Larose en 2002, et plus récemment « La République islamique d'Iran, de la maison du guide à la raison d'État », c'est aux éditions Michel en 2005. Et pour en débattre avec elle, Amir Nikpey, qui est chercheur enseignant à l'université de Saïd Behesti, faculté de droit de Téhéran, qui est actuellement invité par le HESS pour donner des conférences, qui est l'ancien directeur adjoint de la chaire UNESCO des droits de l'homme, qui a lui aussi publié plusieurs ouvrages, dont « La subjectivité de la jeunesse iranienne, le cas de Qom », en collaboration avec Farhad Khosrokavar en 2008 chez Lafont. Et avant, il avait publié « Politique et religion en Iran contemporain » aux éditions de l'Harmattan. Alors, Amir Nikpey, Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Comment dresseriez-vous, Amir Nikpey, un tableau de la justice dans votre pays, de la justice en Iran?
D'abord, bonjour. Et peut-être que ça serait pas mal que je fais un aperçu historique très bref pour situer le débat. En fait, vous savez, la société iranienne a connu trois événements majeurs au XXe siècle. Le premier a été une révolution constitutionnaliste vers les années 1907-1908. Après, ensuite, pendant les années 1930, le premier Pahlavi, c'est-à-dire la dynastie Pahlavi qui était l'ancien régime en Iran, donc le premier Pahlavi a décléricalisé en fait le judiciaire iranien. Après, on commençait en 1979, il y a eu une révolution en Iran au nom de l'islam et les théologiens, en fait, ils ont repris dans un sens le judiciaire. Il y a l'instauration d'une autocratie en Iran depuis 1979. Et puis, à juste titre, on a appelé aussi la République islamique d'Iran le gouvernement des juges. Pourquoi le gouvernement des juges? Parce que, en fait, plus il faut dire le gouvernement, dans un sens, le gouvernement des théologiens juges.
Oui, c'est ça.
En fait, quand on entend parler de juges, en fait, il faut le situer au débat qui existe en Iran. En fait, c'est la théologie qui domine la constitution iranienne. Dans cette constitution, le personnage principal, c'est un théologien juge qui a pratiquement un pouvoir de toute façon très très important et le personnage central de cette constitution. Dans la constitution iranienne, donc, il y a une séparation des pouvoirs aussi. Il y a le président de la République qui est élu au suffrage universel. Il y a les élections parlementaires aussi qu'on, le peuple plus ou moins élit leurs députés, et il y a aussi celui qui est à la tête du judiciaire. Celui qui est à la tête du judiciaire iranien, en fait, c'est un théologien. Il doit être un théologien. Ce théologien juge doit être nommé par le guide suprême pour 5 ans. En général, renouvelable 2 fois. C'est pour ça, donc, celui qui est à la tête du judiciaire iranien ne pourrait pas être un juge, disons, qui a fait des études
de droit
moderne.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, en fait, constitutionnellement, la situation.
Oui, c'est ce que vous nous dites, et c'est très surprenant et même déroutant, pour, je pense, pour les auditeurs français. C'est, vous nous dites, il y a bien une séparation des pouvoirs dans le sens où le responsable de la justice est un théologien qui est nommé directement par le guide, mais qui n'est pas dépendant du pouvoir des autres pouvoirs. Mais la justice elle-même est théocratique. La justice elle-même est fondée sur la théologie. Amir Nikpey.
Bien sûr, quand, d'abord, donc, la première partie de mon intervention, c'était de dire que le personnage principal de cette constitution et du pouvoir iranien, c'est le guide suprême qui est un théologien lui-même. Avant, c'était Ayatollah Khomeini qui était jusqu'à 1997, et puis après ensuite...
89.
Et après, ensuite, il y a M. Khomeini qui est en fait le personnage principal. En fait, c'est lui qui désigne, en fait, celui qui est à la tête du judiciaire. On peut dire en fait la séparation à l'iranienne.
C'est ça.
Donc c'est pas la séparation dans le sens qu'on entend.
Alors, pour bien comprendre, il y a une expression qui revient souvent en préparant cette émission. J'ai buté souvent sur elle. C'est l'expression velayat faqih. Pardon pour la prononciation. Est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs, Amir Nikpey, qu'est-ce que ça veut dire ce velayat faqih?
En fait, vous savez, théologiquement, il y a deux grandes tendances au sein de l'islam. Il y a l'islam sunnite et l'islam chiite. En Iran, en fait, depuis 4 siècles, il y a le chiisme duodécimain, ou plus exactement, les 12 imamites, qui est la religion de la majorité des Iraniens. En fait, théologiquement, disons, il y a le Dieu, en fait, il y a le prophète de l'islam, il y a les 12 imams chiites, et le dernier est en occultation selon la théologie chiite.
L'imam caché.
Imam. Le Velayat faqih, en fait, pendant son occultation, c'est le représentant de cet imam caché théologiquement. Théologiquement, il est le représentant de cet imam caché. Donc, Velayat faqih, en fait, c'est la théorie qui a été élaborée par Ayatollah Khomeini en tant qu'un théologien juriste pendant les années 1970, en fait, quand il était en exil en Irak. En fait, Velayat faqih, comme je vous ai dit au début de mon intervention, c'est en fait c'est le théologien qui est juge, qui doit être à la tête de l'État en Iran.
Oui, Velayat faqih, littéralement, veut dire gouvernement d'un jurisconsulte. Donc, d'où ce statut. Alors, comme Amir Nikpey l'a bien expliqué, Velayat faqih n'a rien à voir avec le chiisme. C'est une invention moderne de Khomeini, effectivement, à partir des années 1970. Ce statut aurait pu ne pas exister dans la Constitution.
Il n'a aucun fondement théologique
absolument.
Ancien.
Non, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce statut est de plus en plus contesté en Iran même, par des ayatollahs qui justement se réfèrent à la tradition chiite ou musulmane en général, mais en particulier chiite, et disent que ce statut n'a jamais existé dans le chiisme. C'est une invention de Khomeini, donc c'est pas du tout divin. On peut tout à fait ne pas être d'accord et le protester. Et d'ailleurs, c'est ça qui se passe actuellement. La nouveauté, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, la rue iranienne également dans le mouvement actuel dit ça. Protestation contre l'existence de ce statut, puisque c'est le guide qui a pris vraiment une importance particulière en termes de son pouvoir sur les autres pouvoirs, c'est-à-dire exécutifs et législatifs. Et c'est ça qui est très contesté actuellement également.
Alors, on va revenir sur la contestation, mais pour que ce soit bien clair, un dernier mot sur ce paradoxe iranien où il y a un gouvernement par la loi, mais par une loi religieuse, et par une loi religieuse qui est fermée, dans le sens où l'interprétation en est extrêmement fermée, puisqu'elle est entre les mains des ayatollahs, Amir Nikpey.
Vous savez, bien sûr, comme je vous ai dit, les ayatollahs, les théologiens, ils ont pratiquement l'essentiel du pouvoir en Iran depuis, disons, 1979. Mais le pouvoir en Iran, ce n'est pas seulement les ayatollahs. Mais c'est vrai que les ayatollahs dominent le pouvoir en Iran.
On va reprendre le problème, si vous voulez, dans l'autre sens. Dans tous les pays du monde, il y a des juristes formés dans les facultés de droit, comme celle dans laquelle vous enseignez, à Miami Pay, et qui enseignent un droit positif. Quelle est la part du droit positif, du droit laïque, du droit technique, du droit civil, du droit pénal dans la justice iranienne contemporaine?
Vous savez, comme pas mal d'institutions en Iran, pas forcément l'institution judiciaire, et puis en fait, il y a un syncrétisme de différents systèmes. En fait, disons, la constitution iranienne est la part du droit dans la constitution, le droit positif, ou même ce que font dans les facultés de droit. Vous savez, depuis l'ancien régime, il y a eu, quand il y a eu l'université qui a été fondée, et puis à partir des années 1940, il y a eu la faculté de droit qui a formé l'essentiel des juristes. Et après, ce sont les mêmes juristes, que ce soit formés dans les universités iraniennes, même parfois dans les universités occidentales, se sont rentrés au pays. Donc, même pour la constitution de la République islamique d'Iran, parce que vous savez, il y a deux constitutions. L'une qui a été en fait rédigée en 1979, la deuxième en 1996. Les deux, en fait, ceux qui ont plus ou moins rédigé cette constitution, en fait, c'était les juristes qui ont fait des études dans certaines universités occidentales. Mais le problème, c'est que c'est en fait le droit positif moderne joue un rôle plus ou moins instrumental dans cette constitution. Oui. Parce que l'essentiel du pouvoir, ce n'est pas en fait.
Bien sûr, parce que je crois que c'est le problème du positivisme juridique, c'est-à-dire que le positivisme juridique peut se plier à toutes les orientations en raison de sa qualité instrumentale et technique. Et finalement, en Iran, le droit positif est instrumentalisé par sa finalité théologique et par sa finalité religieuse. Et ça, je crois que c'est toute l'ambiguïté que le XXe siècle européen a bien connue.
Oui, je voudrais juste dire que, enfin, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que quand on regarde les lois iraniennes, le code pénal est particulièrement calqué sur les lois islamiques et le droit familial et les droits des femmes. Ce sont vraiment ces droits qui sont beaucoup plus que d'autres domaines calqués sur, alors je dirais, une lecture très traditionnaliste de l'islam et de sunnat, c'est-à-dire des traditions. Et donc, si vous regardez le domaine économique, et je pense même le domaine politique en partie, c'est pas totalement calqué sur cette vision-là, puisque en Iran, les élections existent quand même, ou existaient jusqu'en 2009, l'âge de vote est établi à 16 ans, que les gens votent pour élire le président de la République et le Parlement, même s'il y a effectivement une théocratie, mais en même temps, vous avez un modèle calqué sur les démocraties, je dirais, occidentales. Et là où vraiment on est face à un changement important par rapport à l'époque du Shah, c'est effectivement concernant le droit familial et le code pénal, calqué à 100%, je dirais, sur les lois islamiques. C'est ça qui est très difficile à modifier, à changer. Donc, c'est là que ça se passe, je pense, aussi, on en reviendra, l'essentiel aussi des luttes des femmes, à la fois depuis l'intérieur de l'establishment et aussi depuis l'extérieur.
C'est ça. Alors, venons-en maintenant à ce qui se passe aujourd'hui en Iran, à ce mouvement de contestation qui est un mouvement de contestation dans la rue, vous nous disiez à l'instant à Azadeh Khan, c'est-à-dire un mouvement de protestation qui a une dimension politique, mais intéressons-nous à ce qu'il concerne à la société, et à la société, aux femmes et au droit, et notamment à ce droit pénal et ce droit familial qu'on oublie souvent, mais qui sont le cœur, qui donnent la structure
structure d'une société, de toute société. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Quel est le nerf de ce mouvement?
Écoutez, ça, je pense qu'on va un petit peu peut-être nous éloigner de notre préoccupation d'aujourd'hui. Pour ma part, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage très important entre les réalités de la société iranienne et les lois et les institutions
entre la loi et les mœurs.
Qui tentent absolument de les gouverner, notamment s'agissant des femmes. Si vous regardez, par exemple, le code civil iranien qui existe depuis 1979, les femmes ont perdu une partie importante des droits qu'elles avaient avant 1979, notamment, par exemple, le droit au divorce, à la garde de leurs enfants. Au début de la révolution, elles ont perdu tous ces droits. L'âge minimal au mariage, qui était de 18 ans, a été ramené à 9 ans. Et un certain nombre d'autres changements qui vont à l'encontre de la réalité de la société iranienne. C'est-à-dire qu'en 1979, quand la révolution lieu. Par exemple, il n'y avait qu'en gros 40% des femmes iraniennes qui étaient alphabétisées, même un peu moins. Aujourd'hui, plus de 80%, plus de 85% de l'ensemble des femmes sont alphabétisées. La majorité des étudiants sont des étudiantes, donc il y en a plus de 2 millions d'étudiantes aujourd'hui dans les universités iraniennes. D'ailleurs, Amir nous disait que la majorité de ces étudiants aujourd'hui, même en droit, dans la filière de droit, sont des filles. Pareil pour en médecine, etc. Mais si vous regardez le code pénal, déjà, le code civil, une femme mariée, indépendamment de son niveau d'études, ne pourra pas sortir de sa maison sans l'autorisation de son époux, ne pourra pas travailler sans l'autorisation de son époux. Et quand vous regardez le code pénal, la vie d'une femme a la valeur de la moitié de la vie d'un, enfin la moitié de la valeur de la vie d'un homme. Et tous les parties du corps sont ont une valeur selon que vous êtes femme ou homme. Et donc énormément de décalage. Alors beaucoup de femmes qui sont religieuses, qui ont fait des études théologiques, mais aussi universitaires, disent que les femmes ne peuvent pas accepter de telles aberrations et puisque elles sont actives partout, elles sont présentes partout. Et donc, je pense que cette société et ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, c'est très réel dans la mesure où c'est très ancré dans ces traditions qui traversent la société iranienne depuis au moins les 20 dernières années et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus l'expression politique. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce sont les femmes qui sont au devant de la scène contestataire, parce que les femmes ont énormément, sociologiquement parlant, évolué depuis la révolution, mais les lois sont des lois qui ne correspondent pas à cette évolution.
C'est un paradoxe que vous nous dites là. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la révolution a favorisé et augmenté l'alphabétisation des femmes et l'accès des femmes à l'établissement.
Ou à l'enseignement. Diminué le nombre moyen d'enfants par femme. On est passé de 7 à 2. Donc, et en même temps, à ces femmes, on refuse le droit de sortir de leur maison. C'est pas qu'elles ne sortent pas, mais c'est le mari qui décide. C'est le mari qui est chef réel, par exemple, de la famille. Et donc, c'est ça qui est contesté par les femmes.
Amir Anip Kaye.
Peut-être avant de parler directement justement aux événements récents en Iran, donc j'aimerais revenir sur le judiciaire et la situation des femmes.
Quand je parlais des événements récents, c'était en ce qui concerne notre sujet ce matin. On ne va pas faire une émission d'actualité sur le mouvement en Iran.
Vous savez, les femmes, en fait, les étudiantes en droit, les premières étudiantes étaient entrer à l'université en Iran pendant les années 40, 1940. Et puis les premières femmes avocates, c'était pendant les années 40, 50, qui sont entrées au barreau de Téhéran. Mais c'était vers la fin des années, disons 60, 1968-9, qu'il y a eu les premières femmes juges en Iran. Après, avec l'instauration de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire il y a eu une loi passée en 1982, donc la condition pour la qualification pour être juge était il faut que les juges soient élus, ou soit, disons, une des qualifications était les hommes doivent être seulement les juges. Les femmes ne pourront plus être juges. Mais en 1900, comme Azadeh vient de dire, donc il y a eu au niveau, disons, de l'éducation, mais à d'autres niveaux, il y a une présence de plus en plus des femmes dans toutes les institutions et surtout dans l'institution, disons, éducative. Après, il y a de plus en plus des femmes qui sont diplômées dans l'enseignement supérieur et il y a leur présence à plusieurs niveaux, et surtout dans le judiciaire. On voit qu'il y a eu un amendement de la loi en 1995. Les femmes, cette fois-ci, peuvent être nommées comme juges assistantes, en fait, dans le judiciaire iranien. Mais, vous savez, la réalité, ce n'est pas la loi.
C'est-à-dire la réalité.
Ça veut dire la réalité, on voit dans le judiciaire iranien une présence des femmes qui est très, très importante dans le sens pratiquement, j'ai interviewé des femmes qui disaient, nous, on fait tout, mais tout simplement le juge, l'homme, parfois sans avoir lu l'acte final, donc il signe seulement la sentence ou en fait d'autres décisions ou d'autres, disons, travaux que les femmes ont effectués au sein du judiciaire iranien. En fait, il y a un décalage entre la présence des femmes
et l'impact
la loi.
Effectif, c'est ça.
L'impact,
De toute façon, ce même décalage existe aussi dans la société. On sait qu'entre la pratique sociale des lois et les lois, il y a toujours un décalage selon qui vous êtes, quel est votre statut social. Par exemple, les femmes parviennent à négocier sur tous les niveaux et afin d'obtenir une meilleure position pour elles-mêmes. Mais ça, c'est surtout pour les femmes des classes moyennes, des femmes instruites,
urbaines.
Donc, si vous êtes issu normalement des classes populaires, vous ne pouvez pas aller négocier au même titre dans les tribunaux face aux juges et à votre époux, par exemple, pour obtenir vos droits que si vous êtes une femme instruite qui connaît les lois et connaît aussi ses droits. Mais en tout cas, ce que dit Amir est tout à fait vrai, puisque jusqu'en 1993, les femmes, après la Révolution, les femmes n'avaient plus accès à un certain nombre de filières universitaires, dont le droit.
Mais ça a dû être senti comme une régression par les femmes iraniennes.
Mais absolument. Les femmes iraniennes, non. Une partie des femmes iraniennes, c'est-à-dire les femmes qui, avant la Révolution, avaient bénéficié effectivement des réformes entamées à la fois sous Reza Shah, le père du Shah, dans les années 20-30 et sous le Shah lui-même. Mais pour la majorité de la société iranienne qui restait quand même d'abord rurale au moment de la Révolution et analphabète, pour ce qui concerne notamment les femmes, il y a eu un progrès énorme puisque ce sont leurs filles aujourd'hui qui occupent tous les niveaux, si vous voulez, des activités sociales, culturelles, souvent économiques. Également pour ces femmes-là, il y a eu un changement important, on va dire positif, mais c'est ça aussi qui fait paradoxalement qu'elles ont commencé à rejeter les lois islamiques en vigueur en Iran. On a eu des témoignages de beaucoup d'avocats, par exemple, qui me disaient, on est dans les années 90, dans le cas des divorces par les hommes, etc., beaucoup de femmes très religieuses, vêtues en tchador noir, ôtaient leur tchador, donc leur voile, devant le juge en disant, c'est ça votre islam, je n'en veux pas. Donc c'est ça où il y a eu aussi une prise de conscience de plus en plus importante des femmes qui sont devenues des actrices sociales. Et si les femmes ont pu de nouveau entrer dans le judiciaire, avoir accès effectivement à ce métier, c'est grâce à leur propre résistance sur tous les niveaux. C'est pas le régime ou le gouvernement qui a décidé du jour au lendemain à leur permettre de nouveau cet accès-là. D'ailleurs, elles ont même pas encore obtenu le droit de signer les actes parce qu'il y a eu des régressions très importantes à partir de 2005.
Oui, c'est ça. Amir Ikay.
Juste un mot. En fait, il ne faut pas seulement, quand on parle des obstacles pour la présence des femmes au sein du judiciaire, ce n'est pas seulement au niveau de la loi et au niveau de la Constitution qu'il faudrait s'appuyer. Il y a aussi la mentalité des hommes. Parce que nous, on a interviewé des hommes juges dans le judiciaire iranien. En fait, même si politiquement, ils étaient réformistes, c'est-à-dire ils n'étaient pas forcément conservateurs politiquement, mais sur la question du genre, sur la présence des femmes, ils étaient des conservateurs. En fait, ils ont peur de la présence des femmes dans les institutions.
Donc, il n'y a pas que les femmes, les hommes iraniens.
Bien sûr.
On parle d'Iran aujourd'hui.
Bien sûr. Donc, vraiment, les juges qui disaient, en fait, avec cette poussée des femmes dans la société en général, et surtout, justement, dans l'enseignement supérieur, et donc, les femmes, voilà, c'était une phrase d'un homme juge, et, il avait peur dans la conclusion de ses argumentations, il disait... J'ai peur. Dans les années à venir, les femmes nous remplaceront.
Peur de quoi?
Peur de perdre
des femmes. Peur des femmes, de la présence des femmes.
Peur de perdre le pouvoir.
Donc, c'est pas seulement un problème juridique, constitutionnel, un problème à son essai. Il y a un problème aussi au niveau de la mentalité de certains hommes, disons, qui ne se sont pas évolués sur la question des genres. Sinon, ils se sont évolués sur le...
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une sorte de disconnexion entre les opinions politiques qui peuvent être libérales et peut-être
bien
progressistes
sûr.
Et une position plus sociétale, parce qu'il n'y a pas de social, sociétale, qui conservatrice, voire très conservatrice à l'égard des femmes. C'est votre avis également.
Sur le judiciaire, c'est un cas particulier. Ouais. Ceci n'est pas le cas, par exemple, de la représentation des femmes dans le Parlement ou dans les conseils locaux municipaux.
Là qui où, est plus importante.
Bien sûr, qui était plus importante. Et nous avons mené, par exemple, une enquête nationale et qui a bien montré que la majorité, à la fois des femmes électrices, mais aussi des électeurs hommes, n'avaient aucun problème pour voter pour des femmes. D'ailleurs, ça a été le cas. Il y a eu des parlements où on a eu, par exemple, le 6e parlement réformateur, il y a eu 13 femmes, qui étaient des militantes des droits des femmes et qui ont essayé de changer un certain nombre de lois. Alors ceci, bien sûr, n'est pas nécessairement le cas du judiciaire, puisqu'il ne faut pas oublier que les femmes elles-mêmes, et d'ailleurs c'est ça aussi qui sort de votre enquête, Amir, les femmes elles-mêmes sont très réticentes à aller plus loin, si vous voulez. Pourquoi? À mon sens, parce que les lois... ce ne sont pas des juges qui changent des lois, hein, ce sont des politiques. Et les lois avec lesquelles ces femmes doivent vivre au quotidien en tant que juge ou assistante juge, ce sont des lois particulièrement dures à l'égard des femmes, mais en même temps à l'égard des minorités religieuses. Regardez le code pénal et aussi, il faut dire que, par exemple, la lapidation pour adultère existe dans les lois.
Et est-ce qu'elle est pratiquée?
Elle est pratiquée de temps en temps, malheureusement.
Oui, de temps en temps. En fait, je voudrais encore revenir quand Azadeh a parlé justement des minorités religieuses. Encore, je voudrais parler dans le judiciaire. Vous savez, c'est pas seulement avec le nouveau régime, c'est-à-dire le régime théocratique, qu'il y a un obstacle à la présence des femmes pour qu'elles deviennent juges. Quand les femmes sont parmi les minorités religieuses... Vous savez, même à l'époque de l'ancien régime, le régime des Pahlavi aussi, les femmes, par exemple, zoroastriennes ou juives ou chrétiennes, donc elles ne pouvaient pas être juges parce que, selon encore, comment c'est la constitution iranienne, même d'avant la révolution, c'était
seulement les musulmans.
Étaient musulmans. Donc, les minorités religieuses, en fait, il y a la discrimination double à leur rencontre quand elles sont les femmes.
Parce que, alors finalement, il y a trois niveaux de compréhension de la société iranienne aujourd'hui, et je crois que c'est important de s'y arrêter. Il y a le niveau religieux de l'islam, le niveau politique, progressisme ou conservatisme, et le niveau sociétal, qui doivent être compris relativement séparément, à vous entendre, Azadeh Kian. C'est-à-dire que des gens peuvent être très religieux, et ça m'amène à poser une question sur la position des clercs, la position des religieux, donc à l'égard de. À l'égard du droit et à l'égard des femmes. C'est-à-dire que les femmes peuvent être très religieuses et en même temps revendiquer une certaine émancipation sociale.
Tout à fait, c'est ça qui se passe en Iran. Depuis d'ailleurs les 20 dernières années, beaucoup de femmes issues des familles religieuses, elles-mêmes religieuses, on peut les nommer, sont en train de jouer ou ont joué un rôle prépondérant dans à la fois les changements de la législation. Il faut savoir que quand même dans le code civil, par exemple, il y a eu un certain nombre d'amendements, il y a eu un certain nombre de changements. Et quand on regarde de plus près de savoir qui a été derrière, on retrouve des femmes qui ont une double formation à la fois théologique et universitaire qui ont beaucoup poussé afin d'améliorer les lois.
Vont-elles jusqu'à proposer une certaine disjonction de la loi civile et de la loi religieuse?
Oui, et de plus en plus.
C'est une nouveauté en terre d'islam.
Tout à fait. En fait, que ces femmes religieuses elles-mêmes aient arrivé à cette conclusion qu'il faut séparer la sphère religieuse et la sphère politique, il faut que les lois se sécularisent, se laïcisent, ça existe de plus en plus dans ce pays, puisque d'où l'importance du mouvement des femmes d'ailleurs en Iran, à la fois un mouvement qui est à la fois pour actrices des femmes religieuses et des femmes, si vous voulez, laïques, hein, qui travaillent souvent ensemble afin d'améliorer la condition des femmes et introduire des changements dans les lois. Et à mon sens, quand je regarde la Constitution, notamment deux principes, le principe 20 et 21 de la Constitution, et bien ces principes en fait s'apprêtent à l'ambiguïté, parce que d'une part il s'agit je peux vous les citer, par exemple: tous les membres du peuple, tant hommes que femmes, sont égaux sous la protection de la loi et bénéficient de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ça c'est le 20e principe, en observant les préceptes de l'islam. Donc, vous voyez
une sorte de contradiction introduite par l'article 20.
Absolument, cette ambiguïté qui existe dans l'existence même de la République islamique, n'est-ce pas ? Et donc, c'est cette ambiguïté-là qui ne sera pas résolue par les théologiens, mais à mon avis, au niveau politique. Et c'est ça l'importance de ce qui se passe, à mon sens, aujourd'hui en Iran. Donc, en fait, si vous voulez, les préceptes islamiques, ça dépend aussi qui les interprète et réinterprète. Si c'est l'islam officiel, comme c'est le cas aujourd'hui, interprété par le guide suprême, bien évidemment qu'on est dans les inégalités des droits entre hommes et femmes, entre minorités religieuses, majorités religieuses. Mais s'il s'agit aussi des clercs plus réformistes, il y en a en Iran, à ce moment-là, ça peut être différent. Sauf que ces clercs ne sont pas au pouvoir.
Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture dans l'émission Le Bien Commun, qui porte ce matin sur la justice en Iran, avec mes invités que sont Azadeh Khan et Amir Nikpey. Amir Nikpey, qui dit ambiguïté, qui dit contradiction dans les termes, ce que nous trouvons elle est à l'attent dans tous les systèmes de droit et dans tous les pays, veut dire interprétation. Où est-ce qu'on en est dans l'interprétation des textes? Est-ce qu'il y a une ouverture de l'ijtihad, de l'interprétation qui permettrait une évolution du droit, ou est-ce que l'interprétation par les juges et par les théologiens est toujours extrêmement rigide?
Bien sûr. Il y a un formidable débat à plusieurs niveaux. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les intellectuels religieux en Iran depuis à peu près une quarantaine d'années, qui sont plus ou moins, qui ont fait des études modernes dans les universités iraniennes et les universités françaises, américaines ou d'autres universités, où ils ont une nouvelle interprétation de l'islam et de ses lois. Pas seulement ces intellectuels, disons, éduqués d'une façon moderne, mais surtout, il y a des théologiens à plusieurs niveaux. Il y a par exemple des théologiens qui, même sur la question est-ce que les femmes peuvent être juges, bien sûr, il y a des théologiens qui disent oui, il n'y a aucun problème à ce niveau, donc les femmes peuvent avoir toutes les fonctions que les hommes peuvent occuper. Mais vous savez, les interprétations, il y en a à tous les niveaux. Oui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, selon la constitution iranienne, le président de la République doit être un homme. L'homme, il y a un mot, ça s'appelle en persan et en arabe, c'est « rejal ». « Rejal », c'est exactement équivalent du mot de l'homme, l'homme en français. Vous savez, l'interprétation, disons, conservatrice, dit quand on parle de rajoul, c'est l'homme masculin. Mais l'interprétation plus moderne s'est dit, non, Rajoul, c'est en fait une femme aussi peut être Rajoul.
Du genre humain,
c'est ça. Du genre humain. Mais le Conseil constitutionnel iranien, entre guillemets, c'est pas, il n'a pas de la même fonction que du Conseil constitutionnel en France. En fait, c'est un conseil, disons, de 12 membres, il y en a 6 qui sont des théologiens nommés par le guide suprême et 6 autres membres sont des juristes. En fait, qui sont proposés par celui qui est à la tête du judiciaire et doit être approuvé par le Parlement iranien. En fait, ces 12 membres, depuis la révolution iranienne, en général, ce sont des conservateurs. Et c'est pour ça, leur interprétation, même pour les élections présidentielles, les femmes ne pourront pas être candidates aux élections présidentielle. Donc, vous voyez, l'interprétation, il y a à tous les niveaux.
Elle est aussi bouclée, à Zadekian.
Non, pas du tout. Là, je ne suis pas du tout d'accord, puisque depuis 1997 jusqu'à encore 2009, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a de plus en plus de femmes qui se présentent comme candidates. Justement, pour ce qu'elles disent, c'est on veut clarifier cette ambiguïté-là. Finalement, Rajoul veut dire homme ou veut dire personnalité reconnue, parce qu'auquel cas, les femmes peuvent être aussi des personnalités reconnues. Par exemple, en 2009 encore, 47 femmes étaient candidates, mais aucune n'a été habilitée par le conseil de surveillance sans qu'aucune raison ait été donnée. On ne leur a pas dit « vous êtes femme, vous ne pouvez pas ». On dit « non, mais vous n'êtes pas suffisamment... vous ne remplissez pas les conditions, si vous voulez, mais on ne sait pas lesquelles. Donc, le débat reste ouvert en Iran. Pour le moment, le Conseil de surveillance n'a pas encore statué là-dessus. C'est une question de rapport de pouvoir. Et cette ambiguïté traverse l'ensemble des institutions de la République islamique, depuis sa constitution jusqu'aux lois. Et c'est une question de rapport de pouvoir, je dirais, comme partout ailleurs.
Oui, bien sûr. Mais alors, tournons-nous maintenant vers l'avenir ou vers des scénarios possibles pour l'évolution du droit et de la justice, dont on voit, dont les auditeurs vont se rendre compte à quel point ils sont centraux pour la société iranienne, si on songe au droit civil, au droit pénal, parce que de ces deux droits découle la constitution même de la société iranienne. Amir Nipkay, qu'est-ce que vous voyez comme scénario d'évolution possible du droit et de la justice civile en Iran?
Vous savez, les pistes ou les solutions proposées, en fait, on peut les diviser en deux catégories. Il y en a, des pistes ou des solutions assez radicales. Il y en a qui parlent, qui disent sans un changement de régime, donc il n'y aura pas vraiment une amélioration au niveau des lois. Mais il y a aussi des gens qui proposent, il faut absolument, surtout à cause des événements récents qu'il y a eu en Iran, qui pensent qu'il faut absolument limiter le pouvoir du guide suprême. En fait, il faut, disons, certaines réformes au sein une certaine réforme de la constitution iranienne. Mais à d'autres niveaux, justement, des solutions ou des pistes qui sont moins radicales, il y en a qui disent qu'on pourrait changer certaines lois pour qu'ils puissent avoir une meilleure présence des femmes dans toutes les institutions. Ça dépend justement des gens qui sont au sein du judiciaire, ça dépend surtout des gens qui sont au sein de politique, et ça dépend aussi des mouvements qui sont en cours.
Est-ce que dans les mouvements en cours, quelle est la part qui est consacrée au droit? Farhad Khosrokavar, avec lequel vous avez écrit un livre, remarque quelque chose qu'on ne comprend pas souvent ici en Europe, c'est que l'intervention anglo-américaine de 1853 a discrédité l'Occident et les interventions de l'Occident en Iran. Vous avez l'air de vous partager cette...
Oui. Tout le monde l'a dit, d'ailleurs, depuis le coup d'État d'août 1953, puisque d'ailleurs, ce coup d'État explique en partie la révolution islamique de 1979. Les raisons qui ont fait que la religion, en fait, est devenue une idéologie politique afin d'arriver au pouvoir, puisque d'autres alternatives du type laïque, du type occidental, occidentale, etc., du type démocratie occidentale, effectivement, ne pouvait plus tenir tête, parce que lié à l'Occident, après le coup d'État d'août 1953. Il ne faut pas oublier que les Européens et les Américains ont soutenu le Shah d'Iran, qui a commis à son tour énormément d'exactions, sur les questions des droits de l'homme. Mais en fait, le retour, par exemple, au code pénal calqué sur le modèle islamique, ou le retour, par exemple, à un code civil qui existait dans les années 30, d'ailleurs, sous le père du Shah, c'était un moment où les rapports de force étaient au profit des religieux, c'est-à-dire au début de la révolution. Et il s'agit d'une interprétation très traditionnelle de l'islam chiite. Et depuis, on n'a pu qu'à chaque fois qu'il y a eu des luttes, il y a eu des mobilisations, y compris à l'intérieur des institutions, on a pu introduire un certain nombre de changements, y compris d'ailleurs la présence des femmes dans le judiciaire. À l'heure actuelle, il y a plus de 150 juges, plus, peut-être même plus, dans le judiciaire, alors que jusqu'en 1995, il y en avait zéro. Donc il s'agit là aussi d'essayer d'améliorer les choses d'une façon graduelle, telle qu'elle est
progressive et de l'intérieur.
Et de l'intérieur. On ne peut pas s'attendre à ce que le régime change. Visiblement, le régime ne va pas changer du jour au lendemain, puisque une partie de ce même régime est à l'intérieur de ce mouvement de contestation et qui tente visiblement d'améliorer les choses et non pas complètement changer le régime de fond en comble. Et je vous donne un exemple. Par exemple, le code pénal selon lequel la vie des minorités religieuses ne valait pas la même que celle des musulmans a été changée en 2003, compte tenu des mobilisations, y compris à l'échelle internationale. Pour la lapidation pour adultère, il y a eu un moratoire en 2003 sous la pression à la fois interne et internationale. Mais par la suite, ils ont de temps en temps continué à lapider, mais en cachette souvent. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une pression sociale et internationale, on peut s'attendre à une amélioration des choses dans le judiciaire, en tout cas. Et il ne faut pas dire qu'on ne peut rien changer. Il faut s'attendre à ce que le régime change. Il y a quand même 70 millions d'Iraniens qui vivent sous ces lois d'une manière ou d'une autre.
Voilà, je reviens justement aux événements récents. Vous savez, pour le rapport entre la société et le droit, vous savez, comme je vous ai dit, il y a trois mouvements, trois révolutions, disons, trois mouvements majeurs au XXe siècle en Iran. La révolution constitutionnaliste, le mouvement nationaliste du pétrole des années 50, et il y a la révolution islamique. Mais jamais par des questions des droits des femmes ou surtout des droits minoritaires n'étaient pas au centre des revendications. Mais depuis une vingtaine d'années, vraiment, il y a des formidables mouvements sociaux, que ce soit du côté des mouvements ethniques, régionaux, et le mouvement des femmes, ils ont poussé même les candidats dans le programme de prendre en considération les droits des femmes et les droits des minoritaires. Donc, vous voyez la poussée au niveau de la société, du changement qui est en train de s'effectuer de l'intérieur. Donc, moi, personnellement, je suis très optimiste pour l'avenir dans ce sens-là. Ces mouvements sociaux, donc, ils ont des effets sur le droit et
Le combat pour le droit, le combat pour les droits de la femme et des minorités est au cœur aujourd'hui des débats internes iraniens.
C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, par exemple, vous savez, c'est pas, il y a parfois, vous savez, c'est pas seulement au niveau même des mouvements sociaux. Vous savez, même pendant les années 90, quand les réformistes sont arrivés au pouvoir, ils ont pris l'exécutif et quand ils ont gagné les élections parlementaires, où ils ont présenté un projet de loi pour que l'Iran ratifie la convention contre la discrimination à l'encontre des femmes. Vous savez, les parlementaires, ils ont voté, mais le Conseil des gardiens donc a refusé.
C'est ça, ce qui montre que, et là aussi c'est difficile à comprendre, je pense, pour des Occidentaux qui ont misé et qui misent peut-être trop sur le contrôle de constitutionnalité, sur le Jewish Law Review, hein, pour le dire en anglais, comme étant la contrepartie à un droit trop positiviste, à un droit qui aurait oublié ses objectifs de justice sociale ou de justice de société, sociétale en l'occurrence. Mais là, en Iran, ça marche en sens contraire, c'est-à-dire que le contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle conservateur. Bien sûr. C'est ce qui bloque l'évolution des lois. Est-ce que, Azadeh Khan, est-ce que vous êtes optimiste, vous, sur l'évolution de ce mouvement et l'évolution du droit et de la justice et du statut de la femme en Iran?
Je suis sociologue, vous savez, et puis toutes les enquêtes que j'ai effectuées en Iran à l'échelle nationale montrent qu'il ne s'agit plus de juste quelques grandes villes là, du pays, mais même au niveau des villages, il y a une évolution très importante dans les indicateurs de développement humain en Iran et dans les mentalités, entre guillemets, des femmes également et des jeunes aussi d'ailleurs, qui vont à l'encontre, ces évolutions vont à l'encontre des lois existantes. Les droits de l'enfant, par exemple, que l'Iran a ratifié, était quelque chose de très intéressant, tandis qu'il y a une contradiction flagrante entre la convention internationale que l'Iran a ratifiée et les lois iraniennes, puisque ce sont les parents, et notamment le père, qui est considéré comme le propriétaire de son enfant, et donc de sorte que s'il tue son enfant, selon les lois en vigueur en Iran, il ne pourra pas être puni.
Et le cas se produit.
Par le passé, oui. Enfin, on a quelques cas, c'est pas tous les jours, si vous voulez, non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ces contradictions doivent être résolues au profit des conventions internationales dont le régime islamique est signataire. Comment à travers, à mon sens, les négociations, etc. Moi, je ne vois pas d'autre façon, si vous voulez, de faire admettre les conventions, de faire admettre aussi que la convention contre toute forme de ségrégation à l'encontre des femmes, qui a obtenu effectivement l'aval du Parlement iranien en 2004, doit être signée, puisque ça laisse une marge de manœuvre non négligente aux activistes des droits des femmes en Iran de revendiquer les droits égaux. Ce que elles ne peuvent pas aujourd'hui, au regard des perceptions existantes chez les gardiens de la révolution, faire. Mais donc, si vous voulez, il faut effectivement, d'une part, dépouiller le guide d'une partie de ses droits et de son pouvoir, pardon, et du coup également le droit de conseil de gardiens ou de surveillance, et en même temps encourager ce régime à respecter les conventions ratifiées.
C'est ça. Et la signature des instruments internationaux, ce n'est pas une influence occidentale, mais ce sont des instruments
c'est
objectifs.
C'est international, c'est l'ONU.
C'est ça. Ont une certaine influence.
Bien sûr.
Le mot de la fin, Amir Nibkei.
Je pense que, de toute façon, pour revenir au débat qu'on a commencé, en fait, les obstacles, ce n'est pas seulement la Constitution, ce n'est pas seulement la mentalité des hommes. Il faut que les femmes aussi soient plus actives dans le domaine judiciaire,
bien
je
sûr,
dirais, dans
sûr,
le,
oui,
pour, au niveau des mouvements associatifs. En fait, les femmes sont très très actives dans pas mal de domaines, dans pas mal de luttes en Iran, mais dans le domaine judiciaire, dans le domaine juridique,
Je suis désolée, parce qu'elles ne souhaitent pas appliquer ces lois inhumaines existantes en tant que juges. Donc, elles ne sont pas très motivées non plus à participer activement à l'application de ces lois-là.
Je ne sais pas si vraiment...
Changer ces lois au niveau politique et puis par la suite, tu verras qu'il y aura beaucoup de femmes qui voudront être présentes au niveau du judiciaire.
Alors, ce qui est certain, c'est que je crois qu'on a retrouvé dans le débat iranien cette tension entre la loi et les mœurs, pour laquelle le judiciaire est une instance d'actualisation permanente et donc c'est en quelque sorte un jeu à trois. Cette tension entre la loi et les mœurs ne pourra être résolue que par une intervention juridique, soit législative, soit judiciaire. Azadeh Khan, Amir Nibkei, merci. Je rappelle aux auditeurs le titre de vos ouvrages, Les femmes iraniennes entre islam, état et famille, Paris, Maisonneuve et La Rose, en ce qui vous concerne, Azadeh Khan. Et pour vous, Amir Nibkei, politique et religion en Iran contemporain, 2001, Paris, aux éditions de l'Harmattan. Et maintenant, place à la chronique de Sébastien Miller.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Section du contentieux du Conseil d'État, arrêt du 12 octobre 2009. Les faits étaient les suivants. Une jeune femme s'était engagée dans l'armée. Au cours de sa formation, elle avait été conduite à s'entraîner sur le parcours du combattant qui comprenait plusieurs obstacles à franchir dans un temps limité. L'un d'entre eux était un mur haut de plusieurs mètres. Pour le franchir, il fallait l'escalader et, arrivé au sommet, se jeter de toute la hauteur dans une fosse où la chute n'était amortie que par un peu de sable. Au cours d'un de ses entraînements sur le parcours, notre jeune militaire était arrivé au pied de l'obstacle. Elle l'avait escaladé et s'était jetée dans le vide. Au moment de l'impact avec le sol, elle avait raté sa réception et s'était blessée à la jambe. La grave entorse qu'elle s'était causée lui avait laissé des séquelles qui correspondaient, selon les évaluations médicales, à un taux d'invalidité de 10%. La jeune femme estimait que cette infirmité partielle lui ouvrait droit au versement d'une pension d'invalidité. L'administration avait rejeté sa demande au motif que la blessure qu'elle s'était infligée n'étant pas une blessure de nature militaire, l'infirmité dont elle était victime n'était pas au nombre de celles susceptibles d'être indemnisées, compte tenu du fait qu'elle n'atteignait qu'un taux de 10%. Il faut s'arrêter un peu sur ce point. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine les conditions d'ouverture d'un droit à pension d'invalidité en fonction du type et de la gravité du dommage subi. Il précise ainsi qu'il est concédé une pension au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10%. À partir de cette règle, le juge avait bâti une jurisprudence selon laquelle il convenait de distinguer dans les blessures qui résultaient de la pratique militaire entre les blessures proprement militaires et les autres. La blessure militaire correspondait alors pour lui à la blessure causée par un fait soudain, violent et extérieur. L'image qu'évoquent ces trois critères, c'est celle de la balle qui vient frapper le soldat, ou celle de la collision. Faute de répondre à ces trois critères, la blessure ne pouvait être considérée comme une blessure militaire ouvrant droit à pension à partir de 10% d'invalidité. Or, appliquée au cas de notre jeune militaire, la règle ainsi posée aboutissait à lui dénier tout droit à indemnité. Sa mauvaise réception après qu'elle se soit lancée du haut du mur d'obstacles était de sa responsabilité, ce qui fait qu'on ne pouvait considérer que sa blessure avait été causée par un élément extérieur. Faute de réunir les trois critères ensemble de la blessure militaire, elle perdait son droit à indemnisation. Heureusement pour elle, c'est à cette jurisprudence que le Conseil d'État a mis fin, en abandonnant le critère de la cause extérieure pour caractériser la blessure militaire et en la rapprochant du régime général des accidents de service. Plusieurs raisons expliquent que le juge administratif ait fait évoluer sa jurisprudence. L'application des trois critères aboutissait à des situations absurdes où, par exemple, selon que l'on chutait de soi-même au cours d'une opération militaire ou après avoir été percuté par un objet, la blessure dont on était victime pouvait être considérée comme une blessure militaire ou pas. De plus, dans une période de paix, ou lorsque les exercices menés se limitent à des entraînements et s'effectuent en dehors des théâtres d'opération, le régime plus rigoureux des blessures militaires par rapport aux blessures civiles apparaît moins justifiable. Ainsi va l'avis de certaines jurisprudences, qui naissent lentement pour répondre à une difficulté précise, suivent leur cours longtemps, jusqu'à diverger lentement de l'ordre des choses et disparaissent un beau jour à l'occasion d'une décision du Conseil d'État, qui constate que les considérations qui les avaient justifiées au départ ont perdu leur pertinence. La naissance, la persistance, puis le revirement. C'est aussi cela, la vie du droit.
Merci Sébastien. Cette émission a été préparée par Harold Épineuse et Antonin Rabec avec l'aide de Sarah Albertin et de Sylvia Fabre, attachée de production. À la réalisation ce matin, Daniel Finot, et à la technique, Martin Delafosse. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 4 semaines sur le site de France Culture à la page Le Bien Commun et l'enregistrer pendant une semaine. La semaine prochaine, le bien commun remontera aux sources du droit romain et peut-être même du droit occidental avec Aldo Schiavone, de passage à Paris, auteur de Ius, l'invention du droit en Occident.